Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est tous les dimanches, c'est entre 12h et 13h et c'est avec Maurice Sefti. Maurice, bonjour.
Bonjour Frédéric, une envie de faire la révolution et puis de faire, pourquoi pas, sauter un volcan du côté du Nicaragua.
Vous voulez faire la révolution le dimanche?
Oui, disons, vous savez, en espagnol, quand on se répète un peu, on dit faire du refrito, c'est-à-dire quelque chose qu'on recuit, qu'on recommence. Je crois qu'on est déjà à la troisième édition sur ce Nicaragua, non,
Frédéric? C'est la troisième, en effet, ouais.
On a un peu fait le portrait de Managua, on a un peu parlé, on a aussi fait le portrait du pays, finalement, sur le plan géologique,
vrai, oui.
La
nature,
voilà. Les habitants.
Les animaux, la faune, la flore.
On sait que c'est un pays qui penche d'un côté, avec un lac curieux qui fait le balancier de l'autre. On a même mis quelques petits requins d'eau douce dans le lac Nicaragua. Et puis, je crois, enfin, de notre dernière heure, vous avez eu une interrogation par rapport à l'histoire finalement de ce pays. Le Nicaragua est tombé d'un seul coup comme ça dans la soupe au moment de la Révolution. On en a beaucoup parlé dans le monde. Et puis vous vous rappelez qu'on a aussi vu passer une très belle Nicaraguayenne. Nous l'avons suivie pratiquement pendant toute notre dernière émission. Et je crois qu'on a terminé en anglais du côté de ces îles étranges qui sont carrément à l'est du pays, où on a parlé de Bluefield, El Bluff, Corn Island. Enfin, des lieux qui nous font comprendre qu'on peut être indien, qu'on peut être à la fois blanc et métisse, mais surtout noir, lorsqu'on évoque la côte du côté Caraïbe, bien sûr, les anciens esclaves, les corsaires qui sont arrivés par là.
Donc on n'a pas fait le tour.
Si, on a pratiquement fait le tour, en tout cas sur le plan nature, humain, géologique, mais enfin, on ne connaît pas tout. On pourrait se balader à León, on va peut-être découvrir Granada. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler aussi des premiers habitants du Nicaragua, qui finalement, selon la légende, vous savez qu'ils étaient originaires du Mexique, et il y a une sorte de prophète, comme ça. On imagine très bien ces migrations, un peu comme on traverse de l'Égypte à Israël avec un Moïse à l'avant, et c'est un peu la même chose que les précolombiens fonctionnaient. Et là, ils essayent de trouver quelque chose qui ressemble à leur lieu d'origine. Et très souvent, pour les Aztèques, c'est un lac avec une île ou quelque chose d'important au centre. Alors, vous me voyez venir là, Frédéric, le lac Nicaragua avec ses deux fabuleux volcans au milieu du lac. Ça vous rappelle quelque chose par rapport à Mexico qui était une grande lagune? Enfin bon, il y a un tas de mythes comme ça qui ont dû se répéter, tout comme on voit le Popo et l'Itzosiwatl.
Ils existent toujours, ces deux volcans?
Alors, ils existent toujours. Cette île est somptueuse. C'est un endroit fabuleux. Et c'est un lac. Je vous promets qu'on ira faire quelques petites balades comme cela. En l'occurrence, ce rivage du lac Nicaragua, eh bien, lorsqu'on est en face de cette île d'Ometepe, je dirais que c'est vraiment une façon logique d'installer quelque chose de divin comme cela. Et puis, alors, si vous cherchez dans le pays, on a parlé un tout petit peu des miskitos et des sumus qui, eux, sont plutôt cachés dans le côté jungle, dans les régions nord-est, donc dans les terres chaudes. Alors ça, c'était des tribus nomades qui étaient originaires très certainement de la Colombie. Alors ça, c'est fabuleux parce que vous commencez à comprendre que le Nicaragua, c'est un
croisement. Mélange.
Oui, un mélange extraordinaire. Et puis, vous avez également les Lencas, qui sont les Amérindiens, qu'on retrouve en général plutôt du côté du Honduras et du Salvador, c'est-à-dire en dessus de la tête des Nicaraguayens, c'était le plus au nord. Et vous avez les Indiens aussi, Chorotegas. Alors, eux viendraient également du Mexique, tandis que les Chontales, eh bien, ce sont certainement des descendants des Mayas. Les Chontales ont bougé sur la carte à la fois du côté ouest du Mexique, nord, par rapport aux Mayas, hein, et puis là, au Nicaragua.
Donc, toute cette population métissée vit ensemble.
Oui, tout à fait. Et là, quand on parle de l'histoire, obligatoirement, vous devez vous rappeler que le premier qui a touché le Nicaragua, c'est Christophe Colomb. Il ne l'a pas fait en 1492. Et oui, il est toujours là, Christophe.
En
1502, il a fait plusieurs voyages. Mm-hmm. Donc c'est le premier Européen qui a navigué véritablement long des côtes des Caraïbes et qui correspond effectivement à cette côte du Nicaragua. Je crois qu'il a dû rencontrer des miskitos et d'autres tribus qui s'étaient installées à l'intérieur des terres ont peut-être pu croiser ces premières caravelles. Et puis ensuite, alors vous aurez une vraie découverte, bien sûr. C'est-à-dire qu'au moment où on s'intéresse aux îles du Sud, à Panama, qu'on commence à explorer cette région, le Costa Rica, le Nicaragua vont être touchés. Et ça, c'est Gil González de Ávila qui va rencontrer le fameux Nica, vous vous rappelez le nom du grand souverain, Nicarao, ce chef indien qui vivait sur les rives de ce lac Nicaragua et qui va se convertir, qui va convertir les membres de sa tribu au christianisme, et puis qui va donner son nom, après tout, au pays, nous l'avons vu. Alors, celui qui est le plus connu au Nicaragua, je dirais que c'est surtout Francisco Fernández de Córdoba. Et là, ça a dû vous faire tilt, Córdoba. Ça vous dit quelque chose, Córdoba?
Ça me dit quelque chose.
Ben oui, c'est l'unité monétaire du pays. Oui, un Cordoba, deux Cordoba. Si vous avez 1000 Cordoba, vous êtes déjà un peu plus riche. Et il va fonder deux villes importantes dont on parlera, c'est Granada et León. Alors Grenade qui fait penser à l'Andalousie, et pourtant elle est sur les rives d'un lac. Et puis León qui n'a rien à voir avec la Castille et qui au contraire est une ville assez justement révolutionnaire et fantastique. Et puis alors là, on peut carrément faire le saut dans l'histoire. Tout bascule au Nicaragua en 1821, comme pratiquement toutes les petites républiques. C'est le moment de l'indépendance qui commencera à León avec des libéraux. Et puis il y aura le siège de la ville, il y aura les conservateurs, il y aura plein de petites guerres civiles comme cela. Et ça reste un peu sur la carte, parce que je dirais que c'est à peu près le grand moment où on entend encore parler du Nicaragua, et ça fait rêver, c'est 1901-1902, comme ça. Parce qu'on prend la décision de construire quelque chose d'important en Amérique. C'est-à-dire, au Panama, on décide de choisir l'endroit du canal, et non pas au Nicaragua, qui aurait pu faire un endroit de canal absolument divin, puisqu'on aurait traversé par la Grande Rivière, pénétré dans le lac Nicaragua, et creusé seulement 14 kilomètres. Donc vous imaginez sur la carte, mais c'était moins défendable peut-être politiquement parlant que Panama. Je dirais que c'est la grande décision qui va faire perdre. Le Nicaragua serait mondialement connu depuis pratiquement un siècle si le canal y était. Et puis ensuite l'histoire continue gentiment, mais je vous avais promis d'évoquer quand même, il y avait le grand tremblement de terre de 1931, ça c'est un moment très dur. Et puis ensuite, alors en 34, il y a déjà un mot qui arrive sur la carte, c'est le mot Sandino. Sandino, les sandinistes, on en a beaucoup parlé. Eh bien, il est assassiné justement par les membres de la Guardia Nationale. Et c'est à partir de là que tout commence. En 1937, vous avez le général Somoza qui prend le pouvoir et qui s'installe à la présidence. Là, carrément, début de l'année, 1er janvier, je suis là. Et il va fonder une véritable dynastie qui va maintenir cette famille Somoza au pouvoir pendant plus de 40 ans. Et ça, c'est incroyable. Hein. C'est une des plus longues dictatures familiales. On pense carrément à Duvalier. Enfin, c'est tout à fait le même style. Et bon, il y a eu des gens qui techniquement ont été nommés à la présidence. Mais en fait, Somoza va diriger en réalité le Nicaragua pendant ces 40 ans. Je dis Somoza, vous pouvez changer de prénom, ça n'a aucune importance. Vous avez Anastasio d'abord, qui va être tué par... López Pérez, et puis ensuite, vous aurez toutes sortes de mouvements comme ça. Et en 61, vous avez vraiment un front qui se crée, un front sandiniste de libération, le FSLN, le Front de Libération Nationale Sandiniste. Et ça, c'est le début de quelque chose d'important. En 1972, le 22 décembre, vous avez cet immense tremblement de terre, la magnitude 7 sur l'échelle de Richter, qui détruit Managua. Et je vous rappelle que l'aide internationale qui investit au Nicaragua est détournée pour venir augmenter encore la fortune personnelle de la famille Somoza. Ça, c'est le scandale. Et puis, vous avez une figure importante en 78 qui arrive au gouvernement, qui est l'opposition véritablement au gouvernement, c'est Joaquim Chamorro.
Des pas au couchant se glissent dans la poussière du soleil, des patios dalles lisses, des hamacs sans sommeil, l'eau transparente qu'on rêve et qui jamais n'apparaît, vient la valse des regrets. Noir labyrinthe des jungles où le chasseur disparaît, égorgé près de son flingue par le tigre qu'il voulait. La chaleur et puis la fièvre et l'attente du passeur voyageur. Minha serra, échecs, seul avec des givarots, sans un mot avec des chefs venus du Mato Grosso. C'est la selva qui t'enseigne la solitude des rois, la solitude dans l'abstraction végétale. La forêt prend des allures formidable de cathédrale dressée dans le clair-obscur. Le temps n'est pas un chantage, il ne prouve pas le vécu. Minha selva, minha selva, minha selva. n'ont pas connu de loi. Je parle de la loi des hommes dont la nature ne veut pas, qui connaissent comme personne tout ce que vous ne saurez pas. La serve. Minha selva da Amazônia, minha selva do Mato Grosso, minha selva do Goiás, selva.
Dites-moi Maurice, qui est ce Chamorro?
Joaquim Chamorro, eh bien, c'est une des figures les plus importantes de l'opposition. Là, tout à l'heure, je parlais du gouvernement, mais c'est l'opposition au gouvernement. Et Pedro Joaquim Chamorro, pour son nom complet, était l'éditeur du journal très connu qui s'appelait La Prensa. Et il a été assassiné par les forces de Somoza en 1978. Et il y a eu une grève à l'échelle nationale qui a été déclenchée. Et les commandés, de vous rappeler qu'on parlait du FSLN tout à l'heure, eh bien, on va s'emparer du palais national, on va soulever des, il y aura des rébellions sporadiques. À Masaya, à León, dans différentes villes du pays. Et en 1979, là, en plein mois de juillet, les derniers assauts vont obliger Somoza à s'enfuir finalement du pays. Et je crois que c'est le 18 ou le 19 juillet, les forces du front sandiniste vont rentrer dans Managua et mettre en place un gouvernement révolutionnaire. Alors ça, c'est le grand virage, je vous l'avais promis. C'est chapeauté par une Junta de Gobierno de la Constitution Nationale. Et bon, non, j'adore ces noms.
Bien sûr.
La Jotare RN, et c'est composé par trois sandinistes. Il y a Daniel Ortega, dont on en aura beaucoup parlé, on en aura beaucoup parlé par la suite, bien sûr, et des représentants
enfin,
de la bourgeoisie.
Enfin, ça n'a pas duré longtemps, apparemment.
Attendez, là, parce que le gouvernement sandiniste va créer une véritable croisade à partir de 1979. Ça va durer 10 ans. Hein. Il y a quand même un mouvement sandiniste qui, lui, va créer une sorte d'alphabétisation. Personne n'était alphabétisé pour réduire ce problème. Et puis ensuite, vous verrez qu'en 81, on va décréter que... Alors ça, c'est assez curieux. C'est le moment le plus critique. C'est le gouvernement sandiniste fait peser sur l'Amérique centrale une sorte de menace un peu curieuse. On commence à parler de communisme. L'administration Reagan annonce son intention de faire... tomber le gouvernement sandiniste, il suspend toute aide bilatérale. On avait donné, je crois, en 80, 75 millions de dollars, et puis là, c'est fini. Et en 82, vous avez 2500 anciens membres de la Guardia Civile qui sont aidés par les États-Unis et qui forment un mouvement qu'on va appeler Contra Revolucionaria. Alors, les fameux Contras. Ces fameux Contras qui vont pénétrer au Guatemala par la frontière nord du Honduras, qui est le gros voisin. Et en 84, eh bien, les sandinistes vont remporter les élections avec, je ne sais pas, ils avaient 65 ou 67% des voix populaires, et Daniel Ortega est élu président. Et en 85, bien, les États-Unis vont déclencher carrément un embargo commercial contre le Nicaragua. Donc une période extrêmement difficile, dont on est en pleine révolution, si vous voulez, mais on nous empêche de la faire et de la vivre, surtout. Et en 88, eh bien, il y a ce fameux ouragan Juan, vous voyez que les catastrophes suivent l'histoire du pays, il y a d'énormes ravages, et puis naturellement, c'est le début des négociations entre le gouvernement et les fameuses Contras. Et en 90, eh bien, on va former une sorte de coalition. C'est la première fois qu'on tente quelque chose d'aussi nouveau. Il y a 14 partis. On appelle ça, je crois, l'Union nationale oppositora d'opposition, en fait.
Ouais.
Et qui va infliger une sorte de défaite au front sandiniste lors des élections. Et cette union, eh bien, elle sera conduite par Pedro Joaquim Chamorro, la veuve, hein, plus exactement, par personne interposée. C'est cette femme qui s'appelle Violeta Barrio de Chamorro qui va reprendre, en fait, c'est elle qui s'occupait du journal que j'ai évoqué tout à l'heure, La Prensa, et elle va reprendre carrément les rênes du pays avec un général, le général Humberto Ortega, qui était le frère de Daniel Ortega, qui va maintenir ses fonctions à la tête de l'armée. Bon, c'est un peu rébarbatif ce que je vous raconte, mais c'est pour vous montrer que c'est en 92, ça fait 10 ans, hein, ça fait carrément une bonne dizaine d'années, et bien en 92, la guerre contre les Contras est véritablement terminé. Donc la révolution, si vous voulez, grosso modo, c'est la première fois dans l'histoire d'un pays qu'on a un soulèvement populaire qui est parvenu à renverser un dictateur, ce qui était quand même important. Et c'était, ça marque vraiment la fin de plus plusieurs années de combats meurtriers entre les sandinistes et la garde nationale de Somoza. Et puis, c'est la fin, justement, c'est la résistance, c'est la détermination pour arrêter cette dictature brutale. Et je vous dis que si on prend le résumé, c'est donc cet assassinat de Joaquim Chamorro qui va être le détonateur de toute l'histoire. Et puis finalement, plusieurs chefs de file des sandinistes ont reçu durant plusieurs années une formation politique, c'est vrai, ça, il faut comprendre qu'ils ont été à Cuba. Cuba, c'était un peu le bouillon de culture et le seul endroit où une révolution avait réussi en Amérique latine. Et ils vont quand même croiser et même embrasser, je dirais, cette doctrine marxiste. Et leur idéal, c'est quand même la distribution équitable des richesses, des terres, le développement de programmes sociaux. Là je me mets dans l'oreille de Reagan, hein, de l'époque. C'est quand même quelque chose qui sonne très, très rouge. Il y a Moscou, il y a la Havane, les États-Unis, ils veulent protéger leurs intérêts. Ils s'opposent donc à ce gouvernement sandiniste. Et Reagan, quand on en parle, eh bien, il va véritablement mettre sur pied, il va supporter pour la première fois, on voit vraiment un financement d'un mouvement de rébellion par les États-Unis, justement ce mouvement qu'on appelle les Contras. Alors là, je crois que vous avez maintenant un bon résumé, puisqu'en 86, il y a un scandale politique, ce qu'on a appelé l'Iran-Contra, qui éclate à Washington lorsqu'on a découvert que l'argent qui provenait de la vente secrète d'armes des États-Unis à l'Iran avait été dans les faits utilisé au bénéfice des Contras contre le Nicaragua. Ça, c'est vraiment l'explosion, et c'est la défaite électorale des sandinistes en 90, l'élection de Violeta Chamorro, qui va créer finalement le processus de qui aujourd'hui est concrétisée.
Just ghostly.
On s'en va faire la révolution du côté de Léon.
Oh, écoutez, Léon, on l'appelle Léon, la révoltée par rapport à tous ces mouvements que je viens d'évoquer, et surtout ces 10 ans de révolution. Il faut penser qu'il y a toute une génération qui va vivre ce moment-là. Des gens qui ont eu 20 ans et qui tout à coup se retrouvent à 30.
On en a déjà parlé,
en effet. Oui, c'est Léon. C'est un peu la ville elle-même, fonctionne comme un être humain. Je veux dire par là que quand vous êtes là dans ces rues, d'abord ce sont des petites ruelles étroites, et partout vous avez des fresques qui sont encore là, un peu comme on a des tags aujourd'hui. Eh bien, Léon est couverte véritablement de peintures à la gloire du général Sandino. Parce qu'effectivement, c'est le déclic par rapport à l'idée révolutionnaire. Les sandinistes sont présents partout, les habitants sont d'une nature extrêmement gaie. Vous aviez des artistes qui... on sent aujourd'hui un côté peut-être un peu blasé quand même, parce qu'obligatoirement, cette période est révolue, il y a peut-être... eu trop de régimes politiques, il y a peut-être eu trop de mouvements pour qu'on ait l'impression d'une véritable aisance. Hein. C'est une ville qui fonctionne, mais n'a pas véritablement une économie extraordinaire. Alors, c'est une ville qui est une des plus anciennes du pays. Elle a été fondée en 1524, je vous en donne en mille, comment s'appelle la monnaie du Nicaragua, le Cordoba. Donc c'est bien notre ami Hernández de Cordoba qui fondera León, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et elle a été bâtie sur l'emplacement d'un village indien au pied d'un volcan, le Momotombo, qui est un superbe sommet. Et naturellement, comme toutes les villes du Nicaragua, comme je l'évoquais déjà il y a quelques semaines pour Managua, il y aura une fois de plus, je crois en 1610, un tremblement de terre qui va tout détruire. Et puis ensuite, Subtiava, qui était la capitale indienne, va être choisie pour reconstruire León. Parce que vous savez, quand on a un tremblement de terre, on se dit on peut pas rester au même endroit. Ça arrive souvent qu'on déplace comme ça les choses. Mm-hmm. Et en l'occurrence, León va être construite, elle deviendra la capitale du Nicaragua. Donc au départ, c'est vraiment le point fort. En tout cas, pendant toute la période coloniale, cette ville de León va représenter le pouvoir. Et puis, elle va céder ce privilège qu'elle a eu longtemps à Managua, uniquement en, je l'ai évoqué tout à l'heure, je crois juste en passant, en 1821, c'est-à-dire au moment de l'indépendance du pays. On va déplacer la capitale. Et les maisons qu'on voit aujourd'hui à León, eh bien, elles gardent ce côté colonial. Vous avez des portes en bois massif, vous avez des toits en tuiles rouges. Il y a vraiment un côté charmant comme ça. Moi, je me rappelle avoir passé des heures à secouer la porte d'un petit curé qui mangeait, qui ensuite passait à confesse, était absent, simplement pour ouvrir une chapelle extraordinaire justement du 17e et où étaient conservés des plafonds fantastiques. On a des morceaux d'Espagne comme ça, on a l'impression de se retrouver vraiment dans une terre coloniale, et puis en même temps ça a ce côté charme. Quand on dit qu'on est en Espagne, en même temps on se dit vraiment je suis à 10 000 km. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'on est loin de tout, et on est vraiment en Amérique centrale. C'est-à-dire que quand je me sens au Mexique ou au Pérou, j'ai l'impression que la liaison est plus rapide mentalement. Hein. Je me sens plus proche de l'Europe par rapport à l'art, au fonctionnement, etc. Nicaragua, c'est vraiment un endroit qui a gardé ce côté île flottante. Là, vous voyez, on est un peu dans l'espace, on sait pas très bien où on se trouve. Et,
c'est de quoi, ça?
Parce que les distances sont plus grandes. Je veux dire, par là, quand vous pensiez à l'époque coloniale ou même maintenant à vous rendre en Europe, le Nicaragua donne du côté Pacifique, donc il fallait traverser, il faut penser Atlantique, il faut rejoindre le Mexique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment même maintenant, vous êtes obligé de passer, vous avez un transit par les États-Unis, il n'y a pas de vol direct. Enfin, il y a des pays qui sont plus proches de chez nous que d'autres. Le Nicaragua, à part ce côté sandiniste que j'évoquais tout à l'heure, cette révolution, le problème de Reagan, les contrastes et cette aide qui politiquement fera bouger un peu le monde entier, c'est-à-dire cette espèce de balancement, est-ce que les États-Unis ne se mêlent pas de quelque chose qui ne devrait pas, etc. Ben, c'est le seul moment où on a vraiment parlé du Nicaragua. Personne ne connaît la capitale du Nicaragua, si ce n'est quand on a 9 ou 10 ans ou 11 ans, quand pour la première fois on vous apprend les capitales d'Amérique centrale, mais ensuite on les oublie complètement. Et d'ailleurs, si on demande d'égrener...
Complètement.
Ah oui, ouais, complètement. C'était,
pour ma part.
Mais
hein.
Oui, bah, parce que quand on dit Tegucigalpa, ça ne vous dit rien de plus que Managua ou...
Si, Managua, oui, mais...
Maintenant, oui,
Léon,
depuis quelques minutes en tout cas. Et Léon, eh bien, je dirais que moi, j'irais voir, par exemple, la cathédrale de León. C'est la plus grande de toute l'Amérique centrale. Un très beau monument. Il y a des chefs-d'œuvre de l'art colonial. Et puis, ce que je ne manquerai pas non plus, c'est peut-être le palais épiscopal. Et puis, toutes ces églises avec la galerie de tous ces héros, de ces martyrs qui évoquent aussi l'assassinat de Somoza. On a vraiment envie de planer. Et puis, les gens sont vraiment superbes. Une façon de se dire, tiens, voilà un endroit qui bat. Le Nicaragua vit à León. C'est pas ce que les gens font quand ils nous attendent comme ça. Mais la musique, nous, ça nous fait bouger, n'est-ce pas, Frédéric?
Oui, ça nous fait bouger énormément. Ouais. On s'en va faire la révolution un petit peu plus loin ou on reste à Léon encore?
Bon, Léon, je dirais que la seule chose que j'aurais vraiment envie de vous faire partager, c'est de longer la cathédrale. Vous savez, c'est une ville qui n'est pas complètement plate. Alors, vous commencez sur le parvis, puis ensuite, vous avez le mur qui suit, puis la route qui suit pas, ce qui fait qu'à la fin, vous êtes à 400 mètres. Puis en contrebas, vous avez un point d'observation fantastique, c'est le marché. Il est couvert, mais le marché, j'aime bien parce que vous retrouvez tous les paysans qui vont naturellement chercher à vendre tout ce qu'ils ont. Et puis, on mange des spécialités locales. Alors, vous êtes des petits comptoirs comme ça de fortune. Et puis, si vous sortez de la ville de Léon, là, je suis sûr que ça vous plaira, Frédéric, il y a une distillerie extraordinaire.
Ah bon?
Eh oui, le rhum.
Ah oui.
Flor de Cagna. Flor de Cagna, ça fait chanter la fleur de canne. Hein.
C'est vraiment... J'ai l'habitude de boire du rhum. Hein.
Non, mais ça fait penser au tropique. Hein. Enfin, quand on dit Flor de Cagna, c'est déjà le rêve, c'est la musique, on y pense par rapport aux Caraïbes, etc. Très, très bon rhum, c'est l'attraction touristique. Tous les habitants essaient de vous emmener là-bas pour voir leur distillerie. Et bon, je dirais que...
Vous pouvez goûter, non?
Bah, ils veulent tous vous le montrer. Oui, on peut bien sûr goûter. C'est terrible, le rhum chaud. Hein. Faites attention. Puis en plus, vous allez visiter les volcans qui sont juste à côté en même temps, les fumerolles commencent à monter doucement. Alors, l'autre attraction véritable du pays, je vous l'avais promise aussi, c'est Granada. Là, tout à l'heure, on partait d'une ville avec des galeries, des universités. On sent que ça grouille, hein, Léon, avec des petits bars chaleureux. Et puis alors, à l'autre bout, là, quand vous descendez depuis Managua, c'est l'autre ancienne capitale où se sont installés les colons.
Et Managua, Managua ou...
Non, là, je parle de Granada. Hein, il y a eu trois capitales, carrément, dans ce pays. Et Granada, bon, ça évoque plutôt le flibustier William Walker. Elle s'appelle Granada. Et je dirais qu'on trouve peut-être les plus belles maisons coloniales du pays. Et c'est dans l'une d'elles que j'ai...
C'est une grande ville, non?
Oui, c'est une assez grande ville. Ouais. J'ai visité un très beau musée qui vient d'être inauguré. Il y a beaucoup de restaurations après la Révolution. On sent qu'il y a eu tout un mouvement culturel. L'éducation a beaucoup avancé. Et là, vous avez un très, très beau musée archéologique. On retrouve des statues de ces grandes cultures précolombiennes que nous avons évoquées au cours des heures où nous avons partagé le Nicaragua. Et j'aime bien ce côté à la fois bien présenté puis un peu déglingué. Il y a un peu des deux. Puis la fierté des gens de montrer qu'ils ont quelque chose. Je me rappelle, il y avait une exposition sur les Vikings la dernière fois où je suis allé. Et c'est une exposition qu'on a vue en Europe. Et pour eux, c'était vraiment tout à coup être le centre du monde. C'est-à-dire recevoir quelque chose des pays nordiques et puis évoquer ces Vikings qui seraient arrivés les premiers en Amérique. Donc, ça, j'aime bien. Ce côté juste décalé comme ça et en même temps fier, extraordinairement fier. Et à Granada, je dirais qu'il y a aussi une chose que j'aime beaucoup, la cathédrale d'abord, et puis le centre-ville, avec cette place de l'indépendance, avec un palais épiscopal, le palais municipal, et puis vous avez un port à Granada. Alors vous avez un port qui est des petits bateaux à moteur qui vous emmènent dans ce qu'on appelle les isletas, les petites îles, les petits îlots. Alors ça, c'est un archipel qui se trouve sur le lac Nicaragua, qui est fantastique. C'est un véritable paradis pour ceux qui aiment les oiseaux. Alors comment vous le faire imaginer? Comment vous donner quelques... Essayez de décoller comme cela gentiment d'une maison en bois avec votre canot à moteur et puis vous glissez entre les parties végétales comme ça. Vous ne savez pas très bien où vous allez. Hein, t'es que vous voyez plusieurs sorties possibles. Vous êtes à la fois dans un marais, mais l'eau est assez claire. Il n'y a pas trop de plantes aquatiques, mais c'est assez net comme bordure. C'est un petit côté japonisant. Comme ça, vous tournez autour de et puis tout à coup, il y a des arbres. Et puis des arbres, et puis dans les arbres, des rochers. Et puis ces rochers eux-mêmes deviennent carrément des morceaux de sucre les uns sur les autres. Mais toujours très compact, avec des formes souvent arrondies ou un côté érodé comme ça. Et petit à petit, vous rentrez dans un jardin imaginaire. C'est-à-dire, vous avez l'eau, vous êtes sur l'eau, vous allez très lentement, et vous avez des centaines de petits îlots comme ça, à gauche et à droite.
C'est des îlots, c'est pas des îles, donc.
Non, ce sont vraiment des îlots qui peuvent être grands comme votre salon, grands comme votre maison, grands comme la place du Molard. Et puis, ces formes de rochers, puis juste quelques arbres qui montent très haut comme ça. J'ai dit japonais, parce qu'on a l'impression de voir un bonsaï chaque fois, hein, même s'il fait 30 ou 40 mètres de haut. Mais ça a l'allure d'un bonsaï que vous posez dans un petit vase qui lui-même serait l'ensemble des petits rochers, vous voyez. Et puis vous avez juste une cabane, un petit hamac, un petit rien de pirogue, un vélo. On me dit bien ce qu'il fait là. Je veux dire par là que les gens peuvent vivre sur ces petits îlots et vous avez une dame qui va ouvrir un petit restaurant avec une terrasse.
Très fréquenté.
Écoutez, tout le monde pourrait rêver d'être dans un endroit pareil, comme lieu de villégiature quand vous habitez à quelques kilomètres ou à quelques dizaines de kilomètres pour la capitale. C'est vraiment le rêve absolu. Ce lac est beau et cette végétation est fantastique. Ça grouille, ça gazouille de partout. C'est une espèce de jardin à la fois zoologique, avec ce côté flore selon la saison. Moi, j'ai toujours rêvé. immédiatement, on se dit, j'en veux un. Je veux dire, on a envie de s'approprier un petit îlot comme
c'est
ça.
Possible.
Il y a quelque chose de cajoleur. Oh ben oui, si vous habitez Managua et que vous vous arrangez un peu, vous pourrez peut-être dire. Moi, je dirais que c'est quand même un petit côté privilégié. Et puis en même temps, il y a cette simplicité de certains îlots qui appartiennent depuis des décennies aux mêmes familles. Hein. Exactement. Ben, vous savez, quelqu'un qui vient chez nous, il pense un peu la même chose lorsqu'il arrive dans un petit village des Alpes et qu'il voit un petit chalet miniature. Il dit, mais mon Dieu, je rêverais de passer mon week-end ici. Et c'est vrai.
Bon, moi, je préfère un îlot, hein, je dirais.
Ah ben ça c'est un choix, hein, c'est un choix. Mais c'est le même phénomène quand vous êtes dans un de ces villages anciens, vous dites tiens ce petit chalet qui est un petit maso, une maison de poupée, ben là c'est l'îlot de poupée, c'est l'îlot de rêve. Avoir une île, mais pourquoi pas dans un lac d'eau douce avec quelques petits requins d'eau douce comme on les évoquait, c'est un endroit paradisiaque. Il faut en tout cas le visiter cet archipel. Et puis je terminerai peut-être avec un autre rêve, un nom qui fait chanter comme ça, Matagualpa. Matagualpa c'est l'endroit des pionniers, c'est la forêt noire du Nicaragua.
Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my love and all.
J'étais dans cette Venise minérale et végétale. Quand je dis Venise minérale et végétale, c'est vrai que si on mettait quelques rochers à la place des palais de Venise, on aurait cette impression. Drôle de, drôle de comparaison, mais enfin, il y a des petits îlots perdus dans la lagune vénitienne qui font penser. Mais il y a les tropiques en plus, il y a les oiseaux en plus. Et il y a un autre endroit qui me saute comme ça au cerveau et qui me crée des images fortes. Je l'évoquais, c'est Matagalpa. Et Matagalpa, c'est une petite ville. Vous empruntez carrément la route qui part sur le nord-ouest et vous allez rencontrer une charmante petite ville. Là, alors c'est carrément la province. Hein. Je prends 25 000 habitants comme ça, avec un nom qui chante assez bien, Matagalpa, et une agglomération qui est simplement faite avec une centaine de petits commerces. Je crois que j'ai visité les... on aime bien la musique, Frédéric, sur notre radio. Mais là, je crois que j'ai vu une bonne dizaine de kiosques à musique. Alors, ça fait 2 mètres carrés, 3 mètres carrés.
Ah, des kiosques à musique.
Et oui, parce que vous avez des cassettes jusqu'au plafond et puis vous avez toutes ces façons de copier les cassettes d'origine.
Moi, je pensais aux vieux kiosques. D'accord.
On peut être des fois rêveur, je le suis. J'aime bien les kiosques à musique au centre des places. Non, là, c'est carrément le... Le petit magasin de cassettes, plus que de disques, parce que tout le
comme
monde a
son marché.
Oui, absolument. Mais la différence, c'est que là, alors, on vous tient l'original en main, hein, on vous montre l'original, et puis derrière, vous avez les copies. Hein. Donc, c'est assez marrant de voir qu'effectivement, sur 10 000 cassettes ou 5 000 cassettes, il n'y en a peut-être que 20 ou 30 qui font le hit parade, et puis on les reproduit comme ça au fur et à mesure. Pourquoi est-ce que je vous parlais de cette petite agglomération? Ben oui, à cause de tous ces petits commerces, cette place centrale, avec, alors, votre square bucolique, il est là. Hein. Ça, c'est vrai qu'il existe. Et puis quelques kilomètres plus loin, alors vous partez dans la montagne et vous allez vous retrouver dans une exploitation agricole assez curieuse.
Attendez là, il y a à peine quelques kilomètres, on était dans les tropiques, maintenant on est à la montagne.
Mais oui, parce qu'on est parti de Granada, qui était carrément à la hauteur du lac Nicaragua, et puis maintenant là, on est en train de grimper du côté nord-est.
Aussi rapidement.
Et oui, dès que vous avez passé la partie centrale, j'évoquais cette chaîne de montagnes lors de notre portrait, la dernière fois on a fait le portrait du pays, il y a effectivement des terres d'altitude dans le centre, et là, en quelques kilomètres, eh bien c'est vrai que vous arrivez dans un endroit qu'on appelle Selva Negra, la forêt noire. Non, on ne peut pas trouver plus forêt noire et plus idée jurassique. À la fin du 19e siècle, le gouvernement du Nicaragua avait offert des terrains à tous ceux qui acceptaient en fait d'exploiter des plantations de café. Alors là, vous y êtes, hein, parce que le café, quand je parle en général d'Amérique centrale, immédiatement au 19e siècle, si ça s'appelle forêt noire, c'est qu'il y a eu une poignée d'immigrants qui venaient d'Allemagne. Et des Alsaciens aussi, et par nostalgie de leur pays, qu'ils avaient quitté aux alentours de 1880, eh bien, d'ailleurs, partout dans cet endroit, on peut évoquer l'Allemagne. Hein. Tous les noms évoquent l'Allemagne. Vous avez l'Hacienda, par exemple, qui s'appelle Ammonia, qui veut dire Hambourg, en fait. Hein. Vous avez, elle est construite par une famille qui s'appelle Bosch, avec un beau E à la fin. Vous avez un domaine qui était transformé en parc naturel. Il y a un hôtel qui s'appelle l'Hôtel de la Montagne.
Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là?
Tous ces immigrants sont venus pour le café. C'est-à-dire, ils ont été invités par les gouvernements, on leur donnait des terres. Et par exemple.
Ah, donc, c'était pas uniquement aux habitants du pays même.
Ah non, mais c'est surtout les étrangers qui ont lancé ces nouvelles cultures à la fin du 19e siècle. Mmh. Et le café était totalement inconnu dans la région. Et par exemple, si je reprends la famille d'Eddy et de Mao Zedong, là, descendant d'Otto Kuhn, eh bien, Otto Kuhn est un Alsacien qui est arrivé, effectivement. Alors, quand on parle de ces pionniers, prenons l'exemple, cette épopée, carrément. Vous avez, par exemple, dans son hôtel de Las Montañas, vous avez le portrait de tous les ancêtres. Hein. Alors, vraiment, façon montagne, hein, comme si vous étiez carrément dans vos Alpes de tout à l'heure. Le contraste est violent. Hein. Et en l'occurrence, Otto Kuhn, il essaye de vous raconter, justement, à travers son descendant, comment il a été déposé sur la côte chez les Indiens Mosquitos, c'est-à-dire du côté est du pays, et qu'il est remonté en pirogue sur 500 kilomètres le fleuve Juan, qu'il a débouché ensuite dans le lac Nicaragua, et puis qu'il a navigué justement jusque dans les petits îlots qu'on évoquait tout à l'heure, jusqu'à Granada. Et là, à Granada, eh bien, il va acheter un mulet et il va marcher encore sur à peu près 300 kilomètres pour arriver jusqu'à la Selva Negra. Donc c'est vraiment le voyage depuis l'Europe, la traversée complète, la traversée du pays, la traversée du lac, et puis encore un petit bout jusqu'à la montagne. Et le plus extraordinaire de l'histoire, c'est que ces fameux pionniers germaniques ont inventé des choses curieuses. Je crois que quand j'en ai discuté avec Eddy, je crois qu'il m'a vraiment renversé. Il me parlait vaguement en allemand à certains moments, l'alsacien, et puis finalement terminé en espagnol avec un soupçon de français. Eh bien, lui me parlait surtout de ce que son ancêtre avait fait. Il avait inventé le terreau caril. Alors terro, ça veut dire terre, et caril, ça veut dire chemin. Donc le chemin de fer, comme vous l'appelez ici, ben là, c'est le chemin de terre. Alors cette invention et ce mot nouveau, c'était une machine, parce qu'il n'y avait pas de voie ferrée, qui devait servir à transporter la récolte de café et qui empruntait un chemin de terre au lieu d'emprunter un chemin de fer. Alors c'est en avril, je crois, enfin juste au moment de Pâques, en 1905, que celui qui a inventé l'histoire, un Frauenberger, il n'y avait aucune dans l'histoire, on ne trouve que des gens étrangers, il y avait Delaney, oui, il y avait aussi des gens alsaciens d'origine française, eh bien ils vont construire cette machine automotrice, c'est la première fois qu'on fait cela dans le monde, c'est une idée complètement folle, comme, un peu comme un rouleau compresseur, si vous voulez. Mm-hmm. Et c'est un rouleau qui avance doucement. Alors, il faut imaginer le bruit, la ferraille, on est vraiment au début de l'automobile, hein, 1905, et il fallait quand même faire 300 km en tirant des wagons qui étaient pleins de café jusqu'au port de Corinto, qui était sur le côté pacifique. Et puis il fallait le charbon, il fallait de l'eau pour la locomotive, il fallait apporter tout ça avec des mulets, il fallait alimenter tout cela en cours de route pour que ça continue à avancer. Et ben, finalement, ce fameux terrocaril, il a fait 3 fois le parcours et tout s'est arrêté dans la boue. C'est assez marrant, mais rien que l'idée d'être un pionnier comme cela, c'est extraordinaire de s'imaginer, de s'implanter dans un endroit. Alors, je vous mets juste le décor, hein. Un lac, le petit hôtel, une terrasse, votre bière à la main, carrément en faïence bleue, n'est-ce pas? Quelques cygnes qui sont là, derrière, des arbres qui pourraient être tropicaux, mais vous êtes déjà en altitude, vous dites non, c'est pas vraiment l'Alsace, mais il y a un petit coin de gazon à gauche. C'est incroyable. Et puis ce type qui vous parle en allemand du début du siècle et qui par descendance ressent complètement l'explorateur du moment qui a traversé tout le pays, qui est venu d'Europe pour faire fortune dans le café. Ces plantations n'ont jamais été touchées par l'époque de Somoza. Pourquoi ? Parce qu'elles fonctionnaient merveilleusement bien. Un territoire, une sorte de bulle, une sorte de miracle. Allez à la Selva Negra. Il y a des petits bungalows superbes. Vous allez vivre comme dans un rêve. Et pourtant, vous êtes toujours au Nicaragua.
Dimanche prochain, on reste au Nicaragua ?
Non, pas forcément. Ça dépendra un peu de notre humeur. Et puis, on verra le temps qu'il fait.